Mot, responsable national conseil et formation au sein de l'association des paralysés de France. Et bien sûr, bienvenue pour cette deuxième session. Je pensais que vous y allez être plus nombreux que ce matin. Comme quoi, Franck, je me suis trompé. Effectivement, je pensais qu'on allait doubler de capacité, voire tripler de capacité l'après-midi, puisque ce matin à 9h, eh ben, on a eu quelques matinaux. Mais voilà, donc en tout cas au plaisir de vous avoir et bien sûr d'être présent aujourd'hui avec cette deuxième intervention sur cette déclaration de la reconnaissance administrative du handicap. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si c'est un échange gagnant-gagnant entre le collaborateur et l'entreprise? On va accueillir donc Franck Suzon et Christophe Villot qui vont être aujourd'hui en témoin. Donc on va consacrer un petit moment donc sur une présentation. Rappel quelques fondamentaux, identifier les freins et leviers d'action pour accompagner au mieux cette démarche de reconnaissance administrative et l'autodéclaration ensuite dans l'entreprise. Ensuite, une période de témoignage, on va dire, de Franck Suzon et de Christophe Villot qui vont se présenter donc dans quelques secondes, suivi, et on l'espère, de quelques questions de votre part. Donc cette intervention, bien sûr, on va dire une forme de relation triangulaire, hein, nos intervenants. Vous, bien sûr, en tant que participant, mais aussi en tant qu'intervenant aujourd'hui, et moi-même. Donc je compte sur vous, je compte sur votre interactivité. On va essayer effectivement de rendre ces 45 minutes le plus interactif possible. Ok ? Alors, on accueille donc Franck Suzon.
Bonjour, Franck Suzon, je suis directeur d'une entreprise adaptée à l'Association des paralysés de France. Une entreprise adaptée de 140 salariés. Alors une entreprise adaptée, je pense que tout le monde sait, 80% de personnel en situation de handicap, spécialisé dans l'électronique, l'électrotechnique et les services administratifs aux entreprises.
Merci Franck, qui on accueille, Christophe.
Bonjour, donc je suis Christophe Huillot. Donc moi je suis organisateur dans une société du domaine de l'assurance, c'est en fait une caisse de retraite. J'ai été consultant pendant une quinzaine d'années et donc plus récemment, donc là j'ai eu un poste d'organisateur en interne. Voilà, et donc j'ai mis pas mal d'années avant de demander et d'obtenir la reconnaissance aux travailleurs handicapés.
Merci Christophe, on va voir donc tout ceci donc un peu plus précisément tout à l'heure à travers de vos témoignages. Et on va donc démarrer, bien sûr, je viendrai donc à vous hein, pour essayer de rendre cette intervention la plus interactive possible. On va donc commencer par quelques fondamentaux, en tout cas un rappel pour certains, puisque j'ai eu l'occasion tout à l'heure donc, de vous questionner sur votre fonction et d'apprécier votre fonction en tout cas. Donc un rappel sur la reconnaissance administrative, comme je vous l'évoquais, quelques freins qu'on va identifier ensemble et quelques leviers d'action aussi qui permettent en tout cas au mieux d'accompagner cette autodéclaration et préalablement cette démarche de reconnaissance administrative. Alors on va commencer donc par juste un rappel hein, pour certains et une information pour d'autres. Donc les différentes typologies de handicap qui permettent aujourd'hui, en tout cas dans l'absolu et de manière très globale, d'engager une démarche de reconnaissance administrative du handicap. Donc vous voyez donc sur votre gauche des chiffres en gras et en gros. Ce sont les anciens chiffres donc, qui datent, on va dire, d'il y a maintenant 6-7 ans. Avec des derniers chiffres en petit, donc à droite, qui sont tout nouveaux et qui ont une ancienneté environ de 1 an. Alors, je suis plus sur les anciens chiffres, en tout cas pour ma part, hein, puisque de mon expérience professionnelle depuis maintenant 23 ans sur le dispositif handicap, je partage plus ceux qui sont sur la gauche et moins ceux qui sont sur la droite. Mais on va rester fidèle, effectivement, aux analyses qui sont faites. D'accord ? Donc, vous voyez bien sûr, encore une fois, hein, on est principalement sur des reconnaissances administratives en lien avec, pour origine, en tout cas principalement, des maladies invalidantes. Il y a eu une inversion pour moi en tout cas. On est parti plus sur du physique, vous voyez, avec conséquence et inversement origine. Vous voyez donc il y a une inversion, enfin une inversion. Je ne sais pas comment on a pu interpréter, analyser ces chiffres, en tout cas ces données. Mais en tout cas ce que je constate, c'est qu'on a plus affecté, transféré sur du physique que sur de la maladie invalidante. Donc voilà donc quelques typologies en rappel hein, pour certains, en information pour d'autres. Les typologies de handicap qui font l'objet d'une reconnaissance administrative du handicap. Juste pour rappel, hein, je pense que vous le savez et vous allez donc l'évoquer, puisque comme je vous le disais, vous allez donc intervenir avec moi. Donc combien de pourcentage en non-visibilité du handicap ? 4, combien ? 80, tout à fait. On reste toujours sur le 80. Hein. Effectivement, entre 80 et 85% de handicap, on va dire, ou de différences non visibles, et qui font bien sûr l'objet d'une reconnaissance administrative du handicap. Donc encore une fois, sans bien sûr être sur une sensibilisation aujourd'hui, mais nous sommes tous potentiellement en sursis, en tout cas, je n'ai pas envie de vous effrayer là-dessus, mais sur une situation de handicap avec, associée à ceci, une reconnaissance administrative. Voilà donc pour quelques rappels sur les typologies qui font l'objet d'une démarche de reconnaissance administrative. Alors, nous allons maintenant aussi passer sur un rappel fondamental aussi sur les reconnaissances administratives du handicap. On parle souvent de la fameuse RQTH. Et vous parlez souvent de la fameuse RQTH. Dans les entreprises, on parle souvent de la RQTH. J'ai recruté 5 RQTH. J'ai recruté 3 Cotorep, d'accord ? Non, ça y est, le langage a évolué ? C'est parfait. En tout cas, moi je voulais en tout cas vous rappeler quelques reconnaissances administratives. Vous voyez donc sur la gauche, celle qui émane de la fameuse commission, donc anciennement Cotorep, et que vous connaissez plus précisément sous l'institution MDPH. Donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vous en avez donc une seconde qui est l'allocation adulte handicapé, et vous en avez une autre qui est sur la carte d'invalidité. Encore une fois, j'insiste là-dessus, je n'insisterai jamais assez. Moi, j'ai souvent encore chaque année des entreprises qui me demandent est-ce que je dois intégrer dans mon taux d'emploi les personnes qui sont titulaires d'une allocation adulte handicapé ou d'une carte d'invalidité. Encore une fois, ce sont des reconnaissances administratives du handicap, 3 différentes qui émanent de la MDPH. À votre droite, vous avez celle de l'assurance maladie, d'accord ? Plus précisément sous les rentes accidents du travail ou maladies professionnelles, et bien sûr plus largement donc sur les pensions d'invalidité. Donc on est sur l'une d'origine professionnelle et sur l'autre sur une origine non professionnelle. Maintenant, ma question s'adresse à vous. Sur la gauche, est-ce que les reconnaissances administratives sur la gauche, donc établi par la fameuse instance que vous connaissez, MDPH, ont une durée de validité de combien d'années? Ça dépend, et j'ai du 5 ans ferme. Alors, 3 ans à ma gauche. J'ai entendu du 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Est-ce qu'on a du 8 ans? Est-ce qu'on a du 9 ans? Est-ce qu'on a du 4 ans? Ah, question. Alors, on peut en avoir aujourd'hui un peu plus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, effectivement, il y a une durée de validité sur celle de gauche, donc la MDPH, vous voyez. On est sur une reconnaissance qui peut, en tout cas, perdre toute sa validité. Donc, entre 1 et 10 ans aujourd'hui, mais plus classiquement, vous l'avez donc évoqué à ma gauche, on est plus sur une durée de 5 ans. Et on va être aussi, de manière très binaire, sur une reconnaissance de 10 ans également. Donc, généralement, sur le 5 ans, nous aurons sur des reconnaissances donc sur un handicap moyen, léger, modéré. Et sur du 10 ans, on aura généralement des handicaps assez sérieux, pour ne pas dire lourds. D'accord ? Effectivement, vous pouvez aussi en avoir des 2 ans, des 3 ans, aujourd'hui, qui tendent à se présenter par les MDPH, qui sont toutes différentes, en tout cas dans la philosophie, dans l'appréciation, sur le territoire national. Donc, ce que je voulais donc évoquer ici, en rappel en tout cas, ou en information pour certains, c'est qu'à gauche, on est sur une durée de validité de la reconnaissance administrative du handicap. Et maintenant, la question se pose pour celle de droite. Est-ce qu'il y a une durée de validité ? Non ? Définitive ? Votre dernier mot ? Ah, effectivement, donc on est effectivement, c'est ce que je voulais aussi entendre. On est effectivement sur une durée de validité permanente, mais effectivement avec éventuelle révision d'une catégorie à une autre. Vous voyez donc à gauche sur une durée de validité, à droite sur une absence de durée de validité et bien sûr un paramètre important à prendre en compte dans la gestion des reconnaissances administratives et dans l'accompagnement également. D'accord ? Des questions jusqu'ici sur les reconnaissances, sur les fondamentaux ? Oui ? Tout à fait, effectivement. Alors, effectivement. Alors, effectivement, oui, donc il y a des taux d'invalidité donc, prononcés par le médecin conseil de la Sécurité sociale qui vient se rajouter en fonction de la déficience rencontrée pour atteindre le taux minimum et déclencher ce statut et cette reconnaissance administrative. Tout à fait. Il y a effectivement, c'est le médecin conseil en tout cas qui va pouvoir donc l'apprécier. D'accord ? Donc effectivement, donc ce que je voulais qu'on retienne là-dessus, c'est ces reconnaissances administratives, l'ensemble à ne pas négliger, avec une durée de validité à gauche et celle illimitée à droite. Des questions ? N'hésitez pas aussi. Hein. Alors, s'il n'y a pas de questions, jusqu'ici en tout cas, nous allons maintenant engager avec vous un échange sur les freins que l'on peut rencontrer à la démarche de reconnaissance administrative et à l'autodéclaration à son employeur. Donc c'est vous qui allez me répondre. D'après vous, quel frein ? À cette heure-là, normalement, vous êtes plus réveillé que le groupe de ce matin. Hein. Effectivement, acceptation de la démarche, et je vais encore plus loin, l'adhésion aussi du collaborateur ou de la personne vers cette action. On peut accepter, mais on peut parfois ne pas aussi adhérer à la démarche. Tout à fait. Donc l'acceptation de cette démarche. Quels sont les autres freins ? Donc l'évolution de carrière, donc un frein à l'évolution de carrière, je note. Mais encore ? Ça n'apporte rien. D'accord. Mais quand il découvre par la suite toutes les mesures et l'intérêt de la reconnaissance, il se dit, mais pourquoi j'ai attendu tant de temps ou tant d'années pour l'engager. Ben aujourd'hui, moi, on me remercie mille fois. C'est pour ça que je vous dis ça, effectivement. Chacun, effectivement, son expérience en fonction des situations. Mais lorsqu'on a bien intégré l'intérêt de cette reconnaissance, il y a plus de facilité ensuite à l'engager, cette démarche, et éventuellement ensuite à la déclarer auprès de son employeur. Vous en voyez d'autres, enfin ? La lourdeur du dossier. Donc effectivement, le dossier peut paraître assez difficile, assez lourd. Mais lorsqu'on est, en tout cas dans des grands groupes aujourd'hui, la possibilité qui est proposée, qui est offerte par les missions handicap, par les assistantes sociales et tous les autres acteurs ressources en interne, qui vont accompagner cette démarche de reconnaissance, et vous avez raison de le souligner, elle doit être bien renseignée pour mieux accompagner l'appréciation par la commission CDAPH. D'autres ? La peur de la stigmatisation, et effectivement, on est sur une approche psychosociale là-dessus, effectivement, ce regard qui pourrait être porté de manière différente par le collaborateur ou par la hiérarchie. L'ignorance, vous avez raison, il y a une méconnaissance, effectivement, du handicap. C'est pour ça, juste à l'instant, j'ai voulu rappeler les différentes typologies de handicap. Encore une fois, je n'ai pas envie de vous effrayer, qui peuvent tous nous concerner demain, donc, dans notre parcours professionnel. Effectivement, il y a une méconnaissance à la fois du statut, une méconnaissance des typologies de handicap, mais aussi une méconnaissance de tout l'intérêt que ça peut aussi apporter, surtout lorsqu'on est en risque de désinsertion professionnelle, interne ou externe. D'accord ? D'autres freins qu'on peut soulever ? Non ? On va les voir ensemble alors, les principaux. Effectivement, vous les avez donc bien évoqués, hein. L'absence d'acceptation de sa maladie, de son handicap, à l'approche psychologique, hein, ce qui a été donc évoqué. Ce qui a été aussi évoqué, donc la peur de la stigmatisation au sein d'un collectif de travail. La peur du regard porté par les autres collaborateurs, on l'a aussi évoqué. La peur de ne pas être recruté et d'être licencié. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une reconnaissance administrative, est-ce que vous l'avez rencontré, on est sur une forme de discrimination positive ? Vous pouvez le répéter ? D'accord. Donc, aujourd'hui, je parle bien sûr de tout ce que recherche aujourd'hui l'entreprise, hein, la valeur ajoutée, la compétence, l'expertise, le savoir-être, associé à une reconnaissance administrative du handicap. Aujourd'hui, effectivement, on est sur une discrimination positive qui est vraiment présente, en tout cas dans celles que je peux rencontrer et dans les administrations également. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça favorise un peu plus, bien sûr, et je ne vais pas être hypocrite, mais un peu plus ceux, bien sûr, et celles qui ont une compétence, un savoir-être, un niveau de qualification, bien sûr, en lien avec le besoin de l'entreprise. Et vous l'avez aussi donc évoqué, donc la peur de l'évolution de carrière et du droit à la formation. D'accord. Donc voici quelques freins qui sont soulevés, que vous avez soulevés. Moi, je continuerai à vous présenter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 2-3 ans sur une grande entreprise française, 40 000 collaborateurs, secteur de pointe, je ne citerai pas bien entendu. J'intervenais sur un groupe de 12 personnes, des hauts managers. Quand je dis des hauts managers, c'est des hauts potentiels dans l'entreprise. En fin d'intervention, je leur demande bien sûr une action, au moins une action, qu'ils projettent et qu'ils projetteraient en tout cas sur cette thématique du handicap, je dirais dans le management ou dans l'entreprise. La première réponse que j'ai eue d'un manager, c'était de m'évoquer et de nous évoquer. Il y avait la présence du DRH, il y avait la présence du directeur des relations sociales, il y avait la présence de la mission handicap. Première action, c'était d'évoquer ma reconnaissance administrative du handicap. Premier manager. Deuxième manager, je fais le tour. Et vous ? Bah, ça doit être aussi, moi aussi, d'évoquer ma reconnaissance administrative. Donc à un moment donné, je me pose la question, je lui dis, est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que c'est pas une plaisanterie ? Il dit non, on est vraiment reconnu administrativement. Je fais encore le tour de table sur 12 personnes. La troisième me dit, je vais donc aussi déclarer ma reconnaissance administrative. Là, je commence vraiment à me poser des questions. Et là, je dis, quatrième également, non, on s'est arrêté finalement. Le hasard a fait que les trois premiers avaient une reconnaissance administrative sur les 12, ont beaucoup surpris en tout cas la DRH qui était présente à la mission handicap. Moi, ma curiosité m'a amené aussi à leur demander pourquoi cette démarche aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils venaient de constater donc, que dans l'entreprise, il y avait une politique handicap, je reprends leur terme, qui avait une mission handicap, qui avait un accompagnement, qui avait des mesures qui ont en tout cas favorisé cette autodéclaration quelques années par la suite. Donc voilà donc, cette petite anecdote qui s'est présentée en tout cas dans ce parcours professionnel que j'ai eu. Alors maintenant les leviers d'action. Je viens d'en évoquer un. Donc, j'ai entendu politique handicap. Qu'est-ce qui permettrait de favoriser la démarche de reconnaissance et l'autodéclaration ? Donc on est effectivement sur un premier levier d'action qui est la communication par la formation ou la sensibilisation. Premier levier d'action, communication par la formation et sensibilisation. Deuxième levier, et voire d'autres. Messieurs, dames, toutes les mesures. Alors effectivement, toutes les mesures qui s'installent et qui s'inscrivent et qui se présentent dans une grande entreprise aujourd'hui, même pour les petites, hein, bien sûr par d'autres instances qui peuvent aussi les accompagner, dont la GFIP par exemple, donc pour résumer les choses. Donc mesures, effectivement. On est aussi sur d'autres mesures de la vie quotidienne et sociale. On est sur une mesure aussi qu'il ne faut pas négliger aussi, qui est aujourd'hui beaucoup intégrée chez les collaborateurs, c'est le départ anticipé à la retraite, hein, qui permet en tout cas de pouvoir partir en retraite de manière anticipée avec une reconnaissance administrative, d'accord ? Et de prévenir, bien sûr, le parcours professionnel et de prévenir le risque de désinsertion professionnelle. Ah, alors effectivement, si on vient effectivement dans la réponse très technique, j'ai pas encore les conditions. Sinon, je vous garde jusqu'à 21h ce soir et on va présenter toutes les conditions. Effectivement. Alors, il y a le départ anticipé à la retraite sur une période très longue. Il y a le départ anticipé à la retraite sur 2 ans en moins si on n'a pas toutes les conditions. Mais si on n'a pas toutes les conditions, il y a aussi la majoration de retraite qui se présente aussi. Donc, vous voyez. Donc, alors, effectivement, sur la retraite, il y a anticipation un peu plus longue, anticipation un peu plus réduite, mais majoration associée. D'accord ? Donc voici, donc, vous en voyez d'autres On les a tous cités hein, ce matin. Hein. Tout à fait, donc la mobilisation de toutes les mesures pour éviter et prévenir le risque de désinsertion professionnelle. Tout à fait, donc l'intérêt aussi de la reconnaissance, effectivement, est d'évoluer dans ce sens-là. Vous en voyez d'autres ? Alors effectivement, on va rentrer maintenant sur les aménagements organisationnels qui vont s'installer et qui vont permettre en tout cas d'accompagner au mieux donc, le maintien dans l'emploi. Et là, effectivement, c'est un sujet de ce matin et de cet après-midi juste après. Alors, vous en voyez d'autres ou pas ? Donc là, on l'a évoqué effectivement tout à l'heure, l'accompagnement technique, opérationnel, donc à la démarche de reconnaissance qui peut être parfois un petit peu lourde pour certains. D'accord ? Alors si on les voit ensemble, donc quelques leviers d'action qui vont être importants dans l'entreprise, donc la communication par la formation sensibilisation, c'est ce que vous avez donc évoqué. Tentons de démocratiser le sujet dans l'entreprise, de le banaliser en tout cas, de le démystifier, donc bien sûr, dans l'objectif, comme je le mets en bas, d'intégrer cette thématique dans une approche plus globale RH, sans bien sûr identifier et pointer, orienter sur la différence. La communication par l'exemple réussie, vous ne l'avez pas évoqué. Une intégration réussie, en tout cas par expérience, permet aussi à un autre collaborateur de pouvoir en tout cas soit s'accompagner dans une démarche de reconnaissance, ou soit de la déclarer donc lui-même. D'accord ? Donc la communication par l'exemple réussie. La communication par la communication interne et externe, vous ne l'avez pas évoqué. Donc bien sûr, montrez-moi ce qui existe, qui se fait dans l'entreprise. Je vous ai donné l'exemple des trois managers dans l'entreprise tout à l'heure, qui ne savaient pas effectivement qu'il y avait une politique handicap inscrite dans la gestion RH et la politique RH dans l'entreprise. Donc la communication par la communication interne et externe. Et bien sûr, l'information des collaborateurs sur les différentes mesures que vous avez bien sûr citées, professionnelles et extra-professionnelles, hein, donc vie quotidienne et sociale en l'occurrence, qui existe sur le dispositif handicap, et bien sûr, en mobilisant toutes les ressources internes et externes qui vont accompagner au mieux cette démarche. Voici donc quelques principaux leviers d'action qui permettent d'accompagner au mieux. Mais encore une fois, moi je suis très sensible, en tout cas de mon expérience, à la communication, en tout cas par la communication interne et externe. Vraiment, aujourd'hui, et par la communication, par l'exemple réussi, qui en tout cas permet à des collaborateurs d'engager cette démarche et ensuite de l'auto-déclarer à l'employeur. Des questions jusqu'ici ? Vous êtes aussi intervenant, hein ? D'accord ? Allez, juste pour terminer, avant de laisser la parole effectivement à Franck et Christophe, parce que je sais que je suis un grand bavard. Donc, une petite enquête qui a été réalisée en 2013 par le groupe Adecco, avec un échantillon, donc, je dirais, interne au groupe Adecco, avec 1987 répondants. La question, bien sûr, est-ce que vous déclarez votre reconnaissance à votre employeur ? Pour 41%, oui, tout le temps. 49%, pas tout le temps. Et 10%, jamais. Et les principales raisons évoquées, la crainte d'être mis à l'écart, on l'a évoqué, la stigmatisation, le désir de ne pas être identifié comme un handicapé, j'aime pas trop ce terme-là, mais je le mentionne entre guillemets, et sentiment que cela n'est pas nécessaire, ce que vous avez donc bien sûr aussi évoqué. Ma question, est-ce que vous partagez ces chiffres de par vos expériences respectives ? Est-ce que les collaborateurs, pour 41% des cas, le déclarent systématiquement ? Pas de réaction ? Mais dans votre expérience ? D'accord, mais sinon, généralement, est-ce que d'après la perception en fait, de la politique que vous menez dans l'entreprise, dans votre entreprise, est-ce que ça ne vous a pas plutôt, est-ce que ces chiffres ne vous amènent pas à vous interroger ? D'accord. Donc c'est ce que je, C'est ce qu'effectivement je voulais entendre aussi. Moi, je vous donnerai aussi ma réponse hein, personnelle. Effectivement, moi, je suis un petit peu surpris. Alors, effectivement, c'est 1987 répondants au sein du groupe ADECO, mais 41%, effectivement, oui, tout le temps. Voilà, je m'interroge là-dessus. D'accord. Donc, nous allons maintenant, si bien sûr il n'y a pas de questions, redonner la parole à Franck Suzon et Christophe Widow. Donc, Franck, vous avez été reconnu administrativement pour un handicap. Quel type de reconnaissance administrative ?
Alors, en fait, j'ai un accident du travail, donc avec une incapacité permanente. J'ai une rente, accident du travail, avec une incapacité permanente de 25%. Avec un cas un peu atypique, en 1981, j'ai un accident dans un lycée technique en tant qu'étudiant et déclaré accident du travail.
Donc vous voyez la particularité, le côté atypique, donc une reconnaissance administrative alors que Franck était étudiant avec une origine professionnelle puisqu'il était apprenti
au étudiant,
ouais, c'est ouais. Ça, dans un lycée technique.
Dans un lycée technique, oui. Ouais.
Donc il y a cette dimension technique. D'accord. Christophe, vous avez été reconnu par quelle instance ?
Donc j'ai été reconnu par la MDPH, donc j'ai la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Au départ, en fait, ça a été le premier échange, ça a été avec la médecine du travail, qui m'ont dit, écoutez, monsieur Yo, vous avez un handicap, vous auriez intérêt à le signaler. Et de toute façon, les employeurs le voient immédiatement.
Donc vous êtes sur une différence visible, Christophe.
Oui.
Une démarche de votre part de ne pas vouloir vous engager, si je ne me trompe pas, et sous votre contrôle, dans une démarche de reconnaissance administrative que vous avez, en tout cas, sérieusement mûri, en tout cas, dans la démarche.
Oui.
L'accompagner ensuite, c'est bien ça, Christophe, et ensuite la déclarer quelques années après.
Oui, voilà, en fait, c'était par rapport à l'image de moi-même, à me dire, voilà, je voulais pas reconnaître le fait que j'ai vraiment un handicap.
D'accord, donc il y a une approche psychosociale qu'on a évoquée tout à l'heure, avec effectivement, donc, plus ou moins, Christophe, si on peut se le dire, plus ou moins une forme de rejet de votre différence, en tout cas personnellement, mais qui vous a amené en tout cas par la suite à mieux l'accompagner, cette acceptation.
Oui, voilà, donc après, sur la reconnaissance, donc j'ai fait le dossier, et en fait, j'étais chez un employeur, j'ai une période de recherche d'emploi et finalement, quand l'employeur suivant, lui, avait une communication forte sur l'intérêt qu'il avait d'avoir des salariés avec la reconnaissance.
Et quel intérêt, justement, Christophe, pour l'employeur ?
Alors, lui, c'était de pouvoir s'inscrire dans les 6%, de pouvoir, en fait, réduire les pénalités.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu financier là-dessus pour l'entreprise ? Un petit peu ? Un petit peu ? Vous savez combien représente une déclaration d'une reconnaissance dans l'entreprise ? Si on va au plus haut, c'est environ 6 000 euros par an. Hein. Donc est-ce qu'il y a un enjeu financier pour l'entreprise ? Je parle pour une personne, 6 000 euros. Oui, chacun sa philosophie. Hein.
Non.
Alors, c'est une reconnaissance, encore une fois, moi je l'évoque, hein, sur un montant de 6 000 euros. Donc, est-ce que Christophe et Franck, dans leur reconnaissance et dans leur déclaration, est-ce qu'ils valent 6 000 euros ?
Moi, je vaux beaucoup plus. Ouais, clairement. Bon, pour croiser beaucoup, alors, comme je suis directeur d'une entreprise adaptée, moi, tous les jours, je vais chercher des clients pour de la sous-traitance dans mon entreprise adaptée. Et donc, tous les jours, je croise des patrons d'entreprise. Et en fait, il y a tout. Il y a le patron qui ne veut pas entendre parler d'handicap. Il y a le patron qui a une vraie démarche RSE. On a vraiment affaire à tout. Ouais. Et pareil au niveau des salariés. Hein, je veux dire, donc, y a pas, on peut pas dire, c'est malsain, il y a négociation, HUTH, si je m'en vais, tu perds. Il y a des entreprises. Moi, j'ai croisé des entreprises qui m'ont dit, mais moi, je veux pas d'handicapé chez moi. Et puis croyez-moi que la contribution à GFIP, ça leur coûte. Hein. Mais voilà. Donc il y a vraiment de tout. Moi, je peux.
Ça leur coûte quand on multiplie le nombre de. Effectivement. Ouais. Vous voyez, mais sinon, moi, je reviens toujours sur un cas, une personne. C'est 6 000 euros. Donc, Franck, effectivement, ce que je voudrais aussi revenir, votre histoire qui est assez intéressante.
Alors moi, je suis recruté en février 2009 à l'Association des paralysés de France pour être directeur d'une entreprise adaptée. Et je savais que j'avais un handicap. Par contre, je ne connaissais pas du tout la RQTH, le statut, tout ça. Je venais du milieu ordinaire. Donc vraiment... et mon ancien employeur n'avait jamais communiqué là-dessus. Du coup, je découvre la RQTH, je découvre le handicap, et puis d'un seul coup, j'ai un tilt. Au bout de 3 mois, je comprends. Puis au bout de 3 mois, je vois, mais tu fais partie, en ayant une rente d'accident du travail, tu fais partie de l'obligation d'emploi. Et déclare-toi. Et donc, au bout de 3 mois, je me suis déclaré à moi N+1, à l'APF. J'ai dit à mon boss, je lui ai dit, tiens, en fait, vous avez embauché une personne handicapée et c'est le directeur. Il me fait, comment? Vous pouvez m'expliquer? Alors, je lui explique. Il me dit, ah bah tiens, c'est... Donc là, il n'y a pas eu d'embauche discrimination positive, hein, loin de là. C'est venu après. Et donc, j'ai fait les démarches auprès de l'AGFIP, juste pour symboliquement, pour dire, bah voilà... À la GFIP, à l'APF, on a embauché une personne reconnue, enfin en situation de handicap, et qui fait partie de l'obligation d'emploi.
En fait, effectivement, Franck était, sans le savoir, entre guillemets, handicapé, reconnu administrativement, mais il ne le savait pas. Il a découvert effectivement qu'il était reconnu par la suite.
Alors, aucun intérêt pour l'employeur, alors que j'étais, parce que je suis directeur du site, aucun intérêt dans le sens où une entreprise adaptée doit avoir 80% de son personnel de production en situation de handicap. On est bien au-dessus sur mon site. Donc, aucun intérêt, si ce n'est un intérêt où, quelque part, moi, ça donnait du sens. Et ça donne du sens en plus aux salariés. C'est, à un moment, c'est... quand dans la phase d'intégration, j'allais dire, de mon intégration auprès des équipes, quand on disait « ouais, mais le handicap, c'est pas ce que c'est », bah si, je vais quand même vous dire, voilà, vous avez un directeur qui est handicapé, et en plus, sur un handicap invisible.
Et puis, on est encore une fois sur la communication, par l'exemple, parce que nos directions, elles portent un handicap, elles portent une différence non visible, et qui plus est, elle est reconnue aussi administrativement. Christophe, qu'est-ce qui vous a amené, après quelques années, à déclarer votre reconnaissance ?
Alors moi, c'est des échanges en fait avec la médecine du travail, effectivement, comme j'ai introduit un peu tout à l'heure, qui m'ont dit, voilà, vous avez un handicap qui est visible, donc autant avoir la reconnaissance, et si vous jugez que c'est utile chez tel ou tel employeur, actuel ou futur, vous le ferez valoir. Ce que je ne savais pas forcément au départ, je me demandais si c'était automatiquement su à un moment par l'employeur. Bon. Et voilà, donc ça a été un frein. Et donc, donc je suis rentré dans ce processus. Et donc, ça, j'ai levé, mais j'ai dû voir deux fois la médecine du travail pour. Enfin, le médecin pour commencer à me dire, enfin, je vais vraiment monter le dossier. Ça a été assez compliqué parce que du coup, j'ai dû récupérer tous mes éléments de dossier. Médicaux, repasser des radios, faire des choses comme ça après, parce que après j'étais du coup vers mon généraliste. Mmh. Voilà, donc ça s'est fait. Et après, effectivement, je l'ai déclenché vraiment quand j'ai eu de la part de l'entreprise une volonté. Alors, je parlais un peu de s'inscrire dans cette démarche d'avoir et de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc là, j'étais consultant. Et donc, je suis intervenu à la Société Générale qui développait ses missions handicap, et à la fois pour des éléments d'image externe et interne, je pense. Et donc, j'ai bénéficié du coup de ça. L'employeur suivant, donc là, j'étais plus en consultant, je suis rentré dans cette société d'assurance, groupe de protection sociale, qui était déjà par le type d'activité, qui était assez vite favorable. J'ai pu percevoir qu'ils étaient favorables là-dessus.
D'accord. Donc, on revient encore une fois sur cette communication par l'exemple et la communication par la communication interne et externe. Christophe, c'est bien ça. C'est ce qui vous a amené donc à encourager cette auto-déclaration.
Ouais, quand j'ai vu voilà que effectivement l'entreprise était favorable, que globalement bah j'aurais plutôt des, ça serait plutôt positif pour moi, que ça favoriserait au niveau de la RH, voilà.
D'accord.
Après on peut aller plus loin sur le profil. Hein. J'ai pas forcément sur un profil carriériste, en me disant voilà je suis arrivé à un certain niveau, si je reste à ce niveau-là ça me suffirait. Dans un poste d'organisateur, pas forcément très exposé au niveau physique.
D'accord.
Je pense à des commerciaux ou autres, voilà.
Mais sous votre contrôle, Christophe, vous avez donc voulu vous engager dans cette démarche de reconnaissance et la déclarer à votre entreprise.
Oui.
Dans l'objectif aussi de prévenir ce risque de désinsertion professionnelle.
Oui. Alors, en me disant aussi que si mon handicap physique s'aggravait, c'est qu'à ce moment-là, j'aurai plus de protection pour le maintien dans l'emploi.
Alors, je vais juste faire un petit rectificatif sur le terme, Christophe, si vous permettez. Ouais. Protection au sens large, non, mais plutôt un accompagnement, puisque, Christophe, je pense que vous voulez parler plutôt d'accompagnement pour favoriser ce maintien dans l'emploi, éviter cette désinsertion professionnelle. Mais encore une fois, la reconnaissance administrative du handicap, je le rappelle souvent aux managers, effectivement, n'est pas une protection en soi, d'accord ? On n'est pas effectivement salarié protégé lorsqu'on est titulaire d'une reconnaissance administrative. Franck, votre parcours à nouveau ?
Sur quoi alors du coup ? Sur le côté, qu'est-ce que ça peut
en tant que manager, en tant que manager, par exemple, aujourd'hui, comment vous accompagnez l'auto-déclaration, bien que vous êtes dans une EA avec 80%, mais pour les autres ?
Alors moi, je vais souvent témoigner dans les entreprises, je vais souvent témoigner soit à des CODIR ou dans des écoles de managers, je vais souvent témoigner de mon parcours. Et puis, et expliquer que pour moi, c'est plutôt symbolique, puisque ça n'a rien changé. De toute façon, ça n'a rien changé en moi. Mais symbolique dans le sens où, quand je fais visiter l'entreprise, et je fais souvent visiter l'entreprise adaptée, et d'ailleurs, j'ai un conseil, si vous voulez sous-traiter dans les entreprises adaptées, il faut aller les visiter, il faut aller voir ce que l'on fait. Et moi, j'organise des visites une fois, deux fois par semaine, quand c'est des prospects, des clients, des politiques. Et au cours de la visite, on a un PowerPoint où on explique le handicap, 80% de handicap invisible. Et au cours de la visite, il y a 2800 m² d'atelier, trois quarts d'heure. Bien souvent, les cadres que j'accompagne me disent, mais les handicapés, hein, c'est que les ouvriers chez vous. Hein. C'est que les ouvriers. Je comprends pas ce que vous voulez. C'est que les ouvriers, comment ça il n'y a pas d'encadrement je dirige une entreprise de 140 salariés, 5 millions de chiffre d'affaires, je bosse pour Alstom Ferroviaire, vous me considérez quelqu'un dans l'encadrement quand même ? Ah bah oui, un peu. Je suis handicapé, j'ai 25% du handicap. Et c'est pour ça que c'est plutôt symbolique, et j'en joue maintenant, au bout d'un certain temps, j'en joue. Il y a un moment où on se dit, tiens, pourquoi on se déclarait, comment on se déclarait, mais maintenant, réellement, j'en joue, parce que ça change le regard, puis ah bon, je dis, mais le diabète, c'est un handicap, ça peut être un handicap. Je ne suis pas diabétique, j'ai eu un traumatisé crânien, une fracture du crâne, donc voilà. Mais donc j'en joue.
En provocateur, effectivement, la provocation permet aussi d'accompagner la démarche. Okay. Alors, nous allons. Alors, juste un mot pour finir avant les questions du public. Franck, Christophe, si vous deviez effectivement encourager ou ne pas encourager cette démarche de reconnaissance et l'autodéclaration de reconnaissance, qu'est-ce que vous pourriez dire en tout cas en mot final ?
C'est personnel. Voilà, je pense que c'est comme on le sent. Il y a souvent dans les entreprises des démarches avec de l'affichage et on en parlait. Tant mieux. Mais pourquoi ? Dans le fond, c'est pour les 6%. c'est pour ça que je dis c'est personnel. Hein. C'est comme on le sent. Si on le sent, si on a envie de le faire, si on veut le faire, il faut le faire. Le faire. Mais je considère que c'est une démarche personnelle.
Vous savez qu'aujourd'hui, Franck, il y a des entreprises qui sont au-dessus de 6%.
Ah, mais j'en croise.
Et qui accompagnent, en tout cas, une fois, la dynamique.
Clairement. J'en croise souvent. J'étais dans une très grosse entreprise où ils sont à 8% en interne et que des salariés. Alors, Beaucoup aussi sur le maintien à l'emploi, sur un personnel vieillissant, et plutôt que d'avoir du personnel où on va faire un licenciement sur une aptitude au poste, ou là on va vers une reconnaissance, une RQTH, pour avoir du maintien dans l'emploi, pour avoir des aides, pour pouvoir aménager des lignes de fabrication plus lentes, à un autre rythme.
Ouais, effectivement, c'est un sujet effectivement qui va juste suivre ensuite, hein, sur le maintien dans l'emploi, qui est aussi un sujet donc intéressant à prendre en compte. Christophe, un dernier mot avant de laisser voir une question de questions au public, s'il y en a, j'espère d'ailleurs.
Moi, je pense qu'effectivement, selon mon expérience, c'est un échange gagnant-gagnant. Pour l'entreprise, je pense que ça permet de développer la diversité et je pense que c'est un facteur de réduction du stress au travail de l'ensemble des salariés, parce que les salariés qui voient que quelqu'un en situation de handicap reconnu est dans l'entreprise et bien traité, ça permet de relativiser pour eux les risques d'avoir des difficultés et d'être malmené éventuellement sur un poste.
Donc, éventuellement.
Et pour moi, ça a été gagnant parce qu'en fait, je pense que j'ai bénéficié d'une discrimination positive, même si j'avais effectivement les compétences, ça a donné un coup de pouce supplémentaire pour la communication externe et interne, et ce qui m'a permis aussi, suite à la première expérience réelle donc, que j'ai eue avec, en reconnaissance, de pouvoir m'inscrire, de pouvoir ensuite, avec la marque, en fait j'ai travaillé Société Générale sur la première expérience, de pouvoir ensuite trouver vraiment le poste, un autre poste directement dans la foulée, et assurer ma carrière ça a été vraiment très très positif.
Ouais. Il n'y avait qu'une opérationnalité, une compétence.
Et sur la compétence, voilà, mais un plus, un vrai plus.
Merci Christophe. Une question, deux questions, un de nos invités.
On entendra encore mieux. On entendra mieux. Le lien gagnant-gagnant, entreprise, collaborateur dans la reconnaissance se fait, il n'est pas arrivé aussi de la bouche du médecin du travail, qui peut être identifié comme plus légitime sur le sujet qu'un employeur. Ça n'a pas facilité aussi chez vous cette acceptation, cette démarche personnelle d'aller vers la reconnaissance. Son discours dans sa bouche n'aurait peut-être pas eu le même impact si ça avait été l'employeur qui l'aurait dit. Parce que plus identifier 6%, plus identifier. C'est avant tout moi qui vais gagner quelque chose. Toi, tu n'as pas forcément besoin tout de suite, mais peut-être que plus tard, un jour, tu auras besoin de quelque chose. Donc, dans ce cas-là, tu auras ton statut. Alors que si ça vient du médecin, on est vraiment sûr. On a parlé de maintien dans l'emploi, on a parlé de conditions de travail, de sécurité au poste. Et ce qui est finalement la difficulté dans les entreprises, c'est d'avoir ce partenariat avec la médecine du travail pour être.
Effectivement, vous avez raison de le dire. Alors, d'autres ressources, d'autres acteurs ressources neutres, effectivement, qui vont accompagner. Le très légitime, bien sûr, tout à fait. La mission handicap, l'assistante sociale, l'infirmière, si on a une dans l'entreprise, hein, et infirmier, bien sûr, aussi. Hein, et bien sûr, tous ces acteurs ressources qui viennent accompagner et contribuer au développement, on va dire, à l'évolution, en tout cas, du dispositif handicap dans l'entreprise.
Alors, j'ai eu deux périodes. La période où, la première où je n'avais pas la reconnaissance, et donc, c'est le médecin du travail qui m'a déclenché, qui m'a sensibilisé, qui m'a expliqué. Lui, en fait, la crédibilité pour moi était moindre, la sienne, puisque on a le côté médecin, mais qui n'est pas forcément dans l'entreprise, dans les entreprises dans lesquelles j'irai, qui ne peut pas les connaître, et peut-être qui est moins dans l'entreprise et moins dans les visions RH, même si effectivement il a des retours, il a une connaissance de ça, mais voilà. Si ça avait, alors là, du coup, à l'époque, je pouvais pas j'osais pas communiquer avec mes entreprises sur le sujet. Donc, ils m'ont déclenché, ils m'ont aidé. Et par contre, dans les entreprises, si l'entreprise m'avait dit on souhaiterait que tu t'y inscrives, etc., je pense que j'y serais allé. Surtout, et je pense qu'on y va peut-être d'autant plus que l'entreprise est. Je ne sais même pas si la taille joue. Je pense que j'y serais allé volontiers. Mais il n'y avait pas de communication et peut-être dans l'entreprise, une gêne pour l'employeur à aller vers moi en me disant, est-ce que ça va ? Peut-être oui, mais me dire, faudrait que tu t'inscrives dans une démarche. Ils n'osent pas être là-dessus en sachant peut-être pas s'ils ont le droit ou pas de le faire. Je sais pas.
Voilà, la communication, effectivement. Alors, ils ont le droit de le faire, effectivement, tout en respectant la volonté, le choix de l'intéressé dans cette démarche. Une dernière question ? Silence ?
Pour conclure, c'est vraiment une question, mais la problématique qui est soulevée dans mon entreprise, elle est notamment liée monte avec le temps, que les collaborateurs, donc le management et puis plus généralement l'équipe, elle peut être en souffrance, elle peut être en difficulté, parce que là, pour le coup, le dialogue se fait pas, voire très peu.
Là, effectivement, là, vous anticipez effectivement le sujet du maintien dans l'emploi, avec aussi les éventuelles conséquences qui peuvent être portées parfois auprès des autres collaborateurs. Avec aussi d'autres mesures, hein, le sujet qui va suivre va l'évoquer, en tout cas donc, sur d'autres mesures qui existent pour accompagner les collaborateurs, mais aussi pour accompagner le collaborateur concerné, bien sûr. Je pense avoir terminé. On me le rappelle encore à nouveau. Je vous remercie, on vous remercie tous de votre présence. Et puis, bel accompagnement de vos politiques handicap respectives, en tout cas dans vos organisations. Et bonne fin de journée à vous.